Et donc je vous propose qu'on regarde quelques réflexions sur le chant dans la parole de Dieu comme étant une des activités qui sont décrites dans la parole. Et pour introduire, j'ai juste une remarque, mais qui a peut-être une signification plus loin que celle que je vais aborder. C'est que je me suis demandé à quel moment apparaît le son, et donc le chant. Et quand on prend la Genèse, où est-ce qu'il y a la création du son? Il n'y a pas. Hein, on a la lumière. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Parce que le son, en fait, ça a à faire avec l'air. Et Dieu dit. Mais le son tel qu'on le connaît, nous, ça a à faire avec l'air. Donc tant qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son. Et dans l'espace, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de propagation du son, donc on n'entend rien dans l'espace. Et quand même, il semble bien qu'il y ait du son, puisque Dieu parle. Effectivement. Dieu dit. Donc il dit quelque chose. Alors est-ce que c'est quelque chose qui était intelligible? En tout cas, certainement pas avec nos oreilles actuelles, puisqu'il n'y a pas de propagation à ce moment-là. Mais Dieu parle quand même. Et peut-être que Dieu n'a pas besoin de la propagation de l'air, du son, pour qu'on entende quand même sa parole et que l'univers entende sa parole, puisque la création apparaît sur sa seule parole. Autre chose, on a commencé ces moments avec ce chant dont je parlerai tout à l'heure, dans l'Apocalypse. Et ce chant, il est chanté par des personnes qui sont dans les lieux célestes. Est-ce que ça veut dire que dans les lieux célestes, il y aura une atmosphère comme on l'a là, et une propagation du son comme on a maintenant? Peut-être. Ou pas. Ou une autre façon. Voilà, juste des choses là-dessus. Et donc, on a quand même cette origine de Dieu qui parle, et puis on le voit dans l'introduction de l'évangile de Jean, où la parole était Dieu. Et la parole, alors, on a plusieurs acceptions de ce terme-là, hein. On peut le comprendre différemment, mais la parole, c'est quand même à la fois la volonté, l'expression de la volonté, et puis ce qu'on entend de la volonté, il me semble. C'est de ce qu'on entend de Dieu, c'est sa parole, mais ça parle de ce qu'il veut. Et l'évangile de Jean nous dit que ça parle de ce qu'il est, puisqu'il est la parole. Et du coup, cette notion d'entendre la parole de Dieu, d'entendre avec nos oreilles et notre cœur certainement Dieu parler, alors ça a un poids particulier. Et puis je reviendrai sur le chant, puisque le chant est une modalité particulière de l'expression de la parole. Et alors le chant a une place particulière dans l'expression de la louange, et j'en veux pour preuve un passage dans les Chroniques. Vous savez, notamment ces descriptifs de génération que l'on a au chapitre 6, chapitre 6 du premier livre des Chroniques. Et on a quelque chose d'un peu particulier. Dans les Chroniques, au verset 31. Après de longues descriptions. Et ce sont ici ceux que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel depuis que l'arche fut en repos. Et c'est une des seules mentions de fonction attachée à la louange, en tout cas dans ces passages-là. Étonnamment, aujourd'hui, si vous dites ça, on organise, on conçoit des peuples, une tribu qui va servir au temple, on donne des fonctions pour servir dans le temple, et une des seules qui nous soit données à cet endroit-là, c'est relatif à la direction du chant. Est-ce que c'était vraiment le plus important dans la gestion du temple ou de la gestion de la louange à l'époque? Apparemment, c'était important. puisque c'est la seule fonction qui nous est rapportée. Et donc il y a une place très particulière. Et puis on va penser aux chants qui sont donnés dès l'Exode, ce peuple qui chante, et Marie, la prophète Marie, qui va conduire le chant des femmes en particulier, le conduire et répondre. Et donc il y a une place particulière du chant dans la louange, dans le remerciement et dans l'adoration. Cette place particulière, elle est en particulier dans l'Évangile, on l'a, parce que je suis allé chercher les références du chant dans l'Évangile, il n'y en a pas beaucoup. Et symptomatiquement, on en a une mention particulière qui est deux fois, dans deux Évangiles, quand les disciples et le Seigneur vont avant le mont des Oliviers, ils chantent une hymne et ils vont sur le mont des Oliviers. Et là aussi, ça nous dit peut-être quelque chose en termes d'importance pour Dieu et pour le Seigneur qui reçoit ce chant-là, justement avant le début, juste au début de cette marche vers le sacrifice, il y a une hymne qui est chantée tout son chant. Et quelque chose comme si à ce moment-là, le chant était très important. Et la communauté des disciples, qui va en partie exploser dans quelques heures, se regroupe pour chanter une hymne. Et pour annoncer, non, peut-être pas. Je ne sais pas quelle hymne ils ont chanté. On peut imaginer que c'est un des psaumes adaptés, et puis les psaumes qui étaient dans le repas de la Pâque à ce moment-là, effectivement. Mais ça ne nous est pas dit exactement quelle hymne est chantée. Mais en tout cas, à ce moment-là, il y a une communion particulière dans le chant des disciples autour du Seigneur Jésus, juste au moment où le Seigneur va partir, dans ces heures qui vont s'enchaîner, puisque c'est le début de l'enchaînement qui va mener à la croix. Donc on n'a pas beaucoup d'exemples de chants dans les évangiles. Alors en revanche, on a des mentions des psaumes. On a des citations de psaumes. Et la plupart des psaumes étaient des chants. Il me semble que tous ne sont pas forcément des chants. On a l'habitude de les considérer tous comme des chants. Je ne suis pas sûr que tous étaient exactement considérés comme à chanter. Peut-être qu'il y avait simplement des textes poétiques qui n'étaient pas forcément écrits pour être chantés. Mais plusieurs, manifestement, étaient écrits pour être chantés. On a des mentions d'instruments, on a des mentions qui font penser à des références, hein, en entête des psaumes, on a des mentions qui laissent penser que c'était une indication pour, puisqu'on a au chef de musique sur, on a quelques exemples comme ça, c'est peut-être des instruments, mais probablement en partie, sur des airs qui étaient connus sous ce nom-là. Et donc on va chanter ce psaume-là sur tel air, qui était connu et référencé. Donc on a tout ce corpus de psaumes qui sont probablement des chants, même si ce n'est pas tous. Et dans ces chants, notamment dans les psaumes, on va retrouver beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la louange. On va retrouver beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'appel de la bénédiction, de la prière. Et donc on a vraiment des chants qui sont importants pour la louange et l'adoration. Qu'est-ce que c'est que chanter, en fait? Qu'est-ce que c'est que chanter? Chanter, c'est juste... Je suis un peu désordonné dans ce que je dis là, mais... Chanter, c'est principalement parler ensemble et d'une même voix. Vous avez des... en particulier dans l'Apocalypse, des mentions... Et on le lira tout à l'heure, dans le chapitre 4, on a des mentions de grandes voix et des gens qui parlent tous ensemble. Je ne suis pas sûr qu'exactement on comprenne ce qui se dit. Et puis dans le chapitre 5, on a « ils chantent » et on a le texte du chant. Et là, c'est compréhensible. Et tout le monde chante, dit la même chose au même moment, dans le même rythme et avec le même niveau de voix. Et donc le chant a à faire avec ça, avec une expression ordonnée, avec une expression, structurée de la louange qui nous permet d'être tous ensemble. si les chants qu'on a chantés ce matin, chaque texte en lui-même, sont la plupart du temps des poèmes, des expressions bien construites. Mais si on les disait chacun dans notre coin, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait un brouhaha. Dieu retrouverait, je n'ai pas de problème avec ça, Dieu retrouverait et entendrait. Mais quel sentiment de communion nous aurions à chacun dire son texte à la vitesse qu'on veut et avec les intonations qu'on veut dans son coin. Alors oui, on s'adresse individuellement à Dieu, mais il me semble que le chant a affaire avec la communion entre tous et une façon de dire les choses ensemble et que ça soit intelligible pour chacun. Alors ça, c'est beau, ça. Ça veut dire que notre communion, notre expression ensemble, elle est magnifiée par le fait qu'on chante. Alors le chant, il peut être simple, hein. On a des mélodies parfois un peu compliquées, et à mon âge, il y a des écritures de mélodies qui deviennent un peu compliquées à lire, avec des rythmes auxquels je n'étais pas trop habitué. Mais simplement, on n'a pas besoin d'avoir forcément des choses très compliquées, mais simplement se dire qu'on fait les choses ensemble. Et dans le chant, c'est ça qui est important, c'est que chaque bouche devient une partie de la communauté qui s'exprime sur la même, qui dit la même chose en même temps à notre Seigneur Jésus. Et alors ça a un effet aussi sur nous. Et on le lit ça dans le... On va peut-être le lire quand même. Éphésiens, au chapitre 5. On a deux passages qui se ressemblent, hein, Éphésiens et Colossiens. Éphésiens chapitre 5 et verset 19. Soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors on voit ça. On voit cette communion qui est exprimée, qui est ressentie en particulier dans le chant. Et puis je lirai le passage qui ressemble, hein, en Colossiens. Au chapitre 3. Voilà, et au verset 16, que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Alors on voit que l'activité de chanter ensemble, elle est stimulante. Elle est aussi dynamisante pour notre foi, pour notre amour, pour notre communion les uns avec les autres. Elle permet de nous exhorter. C'est assez étonnant, ça. On s'exhorte par des hymnes. C'est peut-être pas un des termes qu'on aurait utilisé pour en relation avec les hymnes. Mais le fait de chanter, de psalmodier ou de chanter, hein, et en particulier des psaumes et des hymnes, alors ça nous exhorte. Ça nous engage. Ça nous demande de vivre ce que nous disons. Est-ce qu'il y a des chants qui vous sont difficiles à chanter? Même pour tout ça. Il y en a un en particulier dans les reflets que je ne peux plus chanter. Parce qu'à un moment donné, ça a été trop dur. Et aujourd'hui, et encore, quand je le chante, je revis ces moments-là. Je ne sais même plus son numéro parce que dans ma mémoire il est sorti. Mais il y a des chants, il y a des paroles qui sont difficiles à chanter pour soi. Et puis il y a des chants où on les chante en se disant je le chante, mais c'est dur, c'est difficile. Parce que ça engage, parce que ça exhorte trop. Est-ce que je suis capable d'aller jusque-là? Est-ce que je suis capable d'abandonner beaucoup de choses que je peux le faire, il faudrait que je le fasse, je voudrais le faire. Voilà, alors c'est le chant et les hymnes nous parlent et nous exhortent et puis nous soutiennent. Hein, la parole nous dit qu'on peut se soutenir avec des chants. Alors on a Isabelle qui a beaucoup soutenu avec des chants, avec des cantiques joués, pas forcément chantés, même si certains reprenaient un peu les paroles parce que c'était connu, ou venaient voir les paroles. Mais on voit aussi que c'est un soutien. C'est pas anodin, puisqu'on voit dans la parole, et en particulier avec David, que la musique elle-même, même sans parler de chant, apaise, hein, dans le cas de David qui apaisait Saül avec sa musique. Donc on a quelque chose autour de la musique, on a quelque chose autour des paroles d'un chant qui apaise, qui soutient, qui exhorte, et qui crée cette communion quand on chante ensemble. Alors ça fait partie des activités effectivement nécessaires dans notre vie communautaire. Et c'est un des aspects pour lesquels vivre sa foi seul dans un coin, en disant « je n'ai pas besoin d'avoir une communauté de frères et sœurs, mais je peux vivre ma foi dans un coin », on perd. C'est pas qu'on peut. On peut trouver Christ et être seul dans son coin et être sauvé, mais on perd quelque chose, un outil d'exhortation, de soutien, de communion et de joie pour chacun. On perd ça, c'est trop dommage. Et alors, je vais finir avec ça. J'avais dit que c'était pas long. Hein. Je vais finir avec ce point-là. Il y a cet aspect communion entre nous, entre chrétiens. Et puis, il y a un passage que tout le monde connaît dans les psaumes, qui est un peu quand même étonnant, et c'est corroboré avec d'autres passages. Dans le psaume 98, je vais y arriver. Je vais lire tout le psaume. Psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des choses merveilleuses. Sa droite et le bras de sa sainteté l'ont délivré. L'Éternel a fait connaître son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté, de sa fidélité envers la nation d'Israël. Tous les bouts de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez des cris de joie vers l'Éternel, toute la terre. Éclatez d'allégresse et exultez avec chants de triomphe et psalmodiez. Juste, je m'arrête là pour signaler, quand on lit « Poussez des cris de joie vers l'Éternel, toute la terre », et on se dit « Oui, tout le monde doit le faire ». Mais manifestement, ça va au-delà, parce qu'on continue la lecture. Verset 5, « Chantez les louanges de l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe et une voix de cantique, avec des trompettes et le son du cor. Poussez des cris de joie devant le roi éternel. Que la mer bruit, et que tout ce qui la remplit, le monde et ceux qui y habitent. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent de joie ensemble devant l'Éternel. » Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Moi, j'ai jamais vu de montagne battre des mains. Mais, et certainement que le poète utilise des images, mais il semble quand même que la nature elle-même chante, soit appelée à chanter. On voit qu'elle est en souffrance, les épîtres, mais qu'elle attend la délivrance, et les psaumes nous disent qu'elle chante. On voit des références aussi dans Job sur les étoiles. Et du coup, quand on chante, on est quelque part dans la création qui chante aussi et qui est appelée aussi à chanter les gloires du Seigneur Jésus et chanter à l'Éternel. Je dis du Seigneur Jésus ici, l'Éternel. Dans les psaumes plutôt, le plutôt éternel et le Dieu créateur. Alors donc, on s'associe quelque part à l'ensemble de la création. Et quand on chante, on est une expression de l'ensemble de la création qui chante à l'Éternel. C'est beau ça. J'avais dit finissez, mais je vais finir avec les deux passages de l'Apocalypse. et en particulier celui donc dans le chapitre 4, on a au verset 8, et les quatre animaux, chacun d'eux ayant six ailes, sont tout autour et au-dessus, plein Dieu, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui était et qui est et qui vient. Et quand les animaux rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens tomberont sur leur face devant celui qui est assis sur le trône et se prosterneront devant celui qui est au siècle des siècles. Voilà. Et donc là, on a des paroles qui est par les quatre animaux. Et après, au chapitre 5, on a tout le monde. Et là, on a des multitudes. Au verset 11, « Et je vis et jouis une voix de beaucoup d'anges alentour du trône, et des animaux et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, disant à haute voix, digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance et richesse et sagesse et honneur et gloire et bénédiction. Et j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et au-dessous de la terre et sur la mer, et toutes les choses qui y sont, disant à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau la bénédiction et l'honneur et la force au siècle des siècles. » Et on a, juste avant, tout ça, c'est fait, et lorsqu'il eut pris le livre, c'est au verset 8, les quatre animaux, les 24 anciens tombèrent sur le trône, et ayant chacun une harpe et des coupes d'or, de parfum et les prières des saints, et ils chantent un cantique nouveau, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Pour moi, c'est le début du cantique auquel se joignent la multitude après. La multitude se joint à ce chant, qui est accompagné par des instruments, par une harpe et des cors. Et donc on a ce chant qui s'élève à la gloire de notre Dieu. Et je ne sais pas s'il y aura de l'atmosphère pour qu'on l'entende à ce moment-là, mais j'aime croire qu'on va bien l'entendre, à minima avec notre cœur, et ce serait extra avec nos oreilles. Jusqu'à là.